En deuxième partie de l'émission, on reçoit des invités pour différentes chroniques mensuelles, nos collaborateurs du milieu associatif. C'est la chronique de l'Institut des troubles d'apprentissage. 10 à 15% de la population québécoise est aux prises avec un trouble d'apprentissage, ce qui représente environ 800 000 Québécois. Les troubles d'apprentissage touchent l'écriture, la lecture, les communications, les mathématiques, les habiletés motrices et les plus communs sont la dyslexie et la dysorthographie. Pour nous parler davantage des troubles d'apprentissage au poste secondaire, donc au moment de la formation scolaire, collégiale et universitaire. J'accueille en studio Mme Odette Raymond, conseillère et formatrice en diversité et inclusion et personne ressource de l'Institut des troubles d'apprentissage. Bonjour Mme Raymond.
Bonjour.
Bienvenue dans nos studios. Donc, tout d'abord, que doit savoir un étudiant qui a un trouble ou une difficulté d'apprentissage qui est au secondaire et qui souhaite aller au collège ou au cégep, en fait, non, une formation collégiale?
Bien, d'abord, les étudiants qui ont un trouble d'apprentissage et qui sont au secondaire doivent s'inscrire comme tous les autres étudiants, pas via pour aller au cégep, via le service de placement, le service d'admission, pardon, le SRAM pour Montréal et le SRAC pour Québec. Et ils sont admis sur la base de leur dossier scolaire. Donc, ce qu'on leur suggère, parce qu'à l'Institut, on a des fois des étudiants qui nous appellent ou des parents d'étudiants qui nous appellent et qui veulent savoir comment faire pour être admis malgré des faibles notes en français, par exemple, pour un étudiant qui a une dyslexie.
Mm-hmm.
Alors, ce qu'on leur suggère, c'est de joindre, si effectivement leurs notes sont plus faibles dans certaines matières comme le français, ben, on leur suggère d'écrire une petite lettre expliquant la faiblesse de leurs notes et expliquant aussi qu'ils sont prêts à avoir des services, à travailler, ils sont conscients qu'ils devront travailler plus fort que les autres. Ça rassure les établissements, ça rassure les collèges ou les cégeps et ça les aide en partant.
Tout à fait, surtout que parfois, on peut viser une formation générale dans le but d'aller à l'université, mais il y a parfois plusieurs programmes qui sont aussi contingentés. Donc, ça peut, c'est vraiment l'importance du bulletin à ce moment-là qui compte. Donc, effectivement, joindre ce complément d'information, parfois même si on a un plan d'intervention déjà au secondaire, ça peut faciliter la compréhension du dossier de l'élève.
Ça peut faciliter, effectivement. Et on leur suggère que dès qu'ils sont admis, on les encourage à tout de suite aller se présenter au bureau des services adaptés ou aux services adaptés du collège où ils sont admis pour le plus rapidement possible se faire connaître et mettre en place des services, des accommodements pour eux.
Justement, parce que dans toutes les institutions, il y a ce service-là qui est offert aux étudiants.
Oui, dans tous les collèges de la province, il y a des services depuis, ça fait quand même longtemps, ça fait depuis 1982 que les collèges et les cégeps et les universités offrent des services d'intégration, de soutien à l'intégration pour les étudiants qui ont qui vivent tout type de situation de handicap, allant du handicap moteur au handicap visuel, et qui en offrent aussi pour les étudiants qui ont un trouble d'apprentissage ou un trouble du déficit de l'attention, par exemple.
Oui, puis parce qu'on peut peut-être prendre quelques secondes pour le rappeler à nos auditeurs, un trouble d'apprentissage, c'est quelque chose qui est permanent. On apprend à vivre, on apprend à utiliser les outils à notre disposition pour mieux fonctionner, mieux apprendre, mieux écrire, bon compter, etc. C'est pas temporaire, faut le dire. C'est pas juste une difficulté qui dure quelques mois.
C'est effectivement quelque chose qui dure toute la vie de la personne et la personne doit développer des stratégies pour arriver à fonctionner. Il y a même plusieurs étudiants qui arrivent au cégep ou au collège et qui passent par leur grande intelligence, par le soutien qu'ils ont reçu, sont passés au travers le primaire et le secondaire sans que leur trouble d'apprentissage n'émerge.
Mm-hmm.
Et qui, arrivant au cégep, bien, la demande en autonomie, la demande en lecture, en écriture est tellement plus grande que là, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Et après une évaluation par un professionnel, ils se rendent compte qu'ils ont un trouble d'apprentissage, effectivement.
Justement, Madame Raymond, pour avoir accès à ces services ou ces adaptations, on parle au milieu dans le milieu collégial, est-ce que ça prend une évaluation? Est-ce que ça coûte très cher? Est-ce qu'on doit avoir un papier du médecin récent?
C'est-à-dire que avoir accès aux services financés par le ministère de l'Éducation, il faut avoir absolument un diagnostic, donc une évaluation par un professionnel dûment qualifié pour faire ce type d'évaluation-là. Et là, ben, il y a de tous les coûts, mais il y a certains de ces professionnels-là qui offrent des évaluations qui sont très complètes, très longues, mais qui coûtent, qui sont assez dispendieuses. Il y a aussi des universités qui, dans le cadre de leur formation en psychologie, par exemple, offrent des évaluations à moindre coût, mais là, ben, en contrepartie, il y a des longues files d'attente. Des longues listes d'attente, pardon.
Mm-hmm. Est-ce que les services d'adaptation sont disponibles pour tous? Qui est accepté? Est-ce qu'il y a des contraintes?
Généralement, quand le conseiller, parce que l'étudiant est reçu par un conseiller en service adapté, dont le travail est de rencontrer l'étudiant et d'évaluer ses besoins.
Mm-hmm.
Alors, on prend compte du diagnostic, de l'évaluation, mais on essaie de mettre ça de côté, puis on tient compte de ses besoins. Alors, s'il a eu des services au secondaire, on en tient compte aussi. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché? À cet âge-là, les jeunes se connaissent. En évaluant les besoins, bien là, on offre certains services. Alors, on a un panier de divers services allant de la prise de notes à la prolongation du temps pour compléter un examen, à l'isolement dans un local à part plus tranquille, par exemple, mm-hmm. que la salle de classe. Alors, il y a une brochette de services et d'accommodements à l'intérieur de quel on puise pour pouvoir donner le bon service répondant aux besoins de l'étudiant pour qu'il puisse compléter et réussir ses études.
Tout à fait, parce que c'est toujours l'objectif de réussite.
Oui, c'est toujours l'objectif de réussite en offrant des accommodements plutôt qu'en réduisant les attentes, parce que ces étudiants-là doivent, comme tous les autres étudiants, répondre à certaines attentes, à certains critères, ils doivent avoir une formation équivalente à tous les autres étudiants. Alors, plutôt que diminuer les attentes, bien, on va donner le petit plus qu'il faut pour réaliser toutes les tâches qu'il y a à faire dans le cadre de son programme.
Justement, quand on parle d'accommodement, est-ce que ce serait possible qu'un étudiant dyslexique, par exemple, passe un examen oral?
Oui, c'est possible. Ça se fait dans certains cas. Faut comprendre que c'est vraiment du cas par cas.
Mm-hmm.
On évalue chacun les besoins de chacun des étudiants. Et à chacun des accommodements, il y a des bons et des mauvais côtés. Donc, c'est important que, le côté précieux et important du travail d'un conseiller en service adapté qui doit vraiment évaluer quels sont les bénéfices comparativement aux contraintes que tel accommodement peut apporter.
Tout à fait.
Mais c'est un exemple d'accommodement qui peut être possible dans certains cas.
Madame Raymond, est-ce qu'il y a des services similaires dans les universités?
Oui. Alors, en continuité avec ce qui se fait dans les collèges, dans les universités, les universités, au lieu de s'appeler les services adaptés, ça s'appelle les bureaux des étudiants en situation, le bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap. Alors là encore, il y a des conseillers qui reçoivent des étudiants et les services ressemblent beaucoup à ce qu'on retrouve au collégial, avec des fois un petit peu plus, quelques différences dans les applications de ces services-là. Alors, c'est important de vérifier. Dans certains établissements, collégiales ou universitaires, on va avoir des locaux à part pour des étudiants qui ont un déficit d'attention, par exemple, ou qui sont facilement distraits. Alors, on va avoir des cubicules. L'étudiant est seul dans son cubicule. Avec l'augmentation du nombre d'étudiants et avec la restriction du nombre de locaux disponibles, ben c'est sûr que dans certains établissements, on n'a pas le choix que de faire des locaux qui accueilleront 6, 7, 8 étudiants qui vont faire leur examen en même temps dans un même local. Alors, c'est un petit exemple de difficulté, de différence, par exemple, d'application.
Tout à fait. Est-ce qu'il y a un bon taux de diplomation chez les personnes qui ont un trouble d'apprentissage dans les études postsecondaires? Est-ce qu'il y a de l'espoir tout de même? On peut réussir sa formation et trouver sa place sur le marché du travail.
Oui, il y a de l'espoir. Puis il y a de plus en plus, on a de plus en plus de modèles de réussite. Alors, on essaie, à l'Institut, on a une chronique dans le Devoir à tous les mois où certains étudiants vont témoigner. Certains qui ne sont plus des étudiants, mais sont des travailleurs, vont témoigner de leur parcours avec ses hauts et ses bas, puis vont témoigner de leur réussite actuelle. Donc, c'est très précieux parce que c'est sûr qu'il y a des doutes et il y a des inquiétudes de la part de certains étudiants et de leurs parents aussi.
Tout à fait.
Alors, mais on a de plus en plus et il y a des études, notamment du groupe de recherche, du réseau de recherche Adaptec, sous la gouverne de du docteur Catherine Fichtin, qui démontre que les étudiants qui reçoivent des services peuvent réussir aussi bien que les étudiants qui n'ont pas de troubles.
Mm-hmm. Qui n'en ont pas besoin.
Oui.
Et il faut aussi le dire, le collège, le cégep ou l'université, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Et il y a beaucoup de gens qui se tournent aussi vers les formations professionnelles parce que c'est par intérêt ou par agilité, par facilité aussi. Donc, c'est aussi une avenue possible.
Oui, mais je trouve ça intéressant que vous souleviez la question parce que on pense souvent que la seule voie, c'est le cégep, l'université et que point d'université, point de salut.
Tout à fait.
Mais il y a beaucoup de gens qui, trouble ou pas, décident d'aller vers la formation professionnelle et sont très heureux, très épanouis. Le but, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait, c'est pas d'avoir un diplôme universitaire.
Non, tout à fait. Et merci beaucoup de travailler et de soutenir ces jeunes en voie de réussite professionnelle. Donc, on parlait des troubles d'apprentissage au postsecondaire, des ressources qui sont mises à disposition au niveau collégial, au niveau universitaire. Odette Raymond, vous êtes conseillère et formatrice en diversité et inclusion et personne ressource de l'Institut des troubles d'apprentissage. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.